Pierre-Yves, Jean-Marc Eustache, le chef, le président et chef de la direction Transat a dit ce matin, je tiens à répéter que les discussions sont à un stade préliminaire, mais évidemment, Transat AT pourrait être vendu.
Et voilà. Et pour les actionnaires, Paul, c'est comme une épiphanie parce que si tu regardes le rendement depuis quelques années, là, 2015, 2016, 2017, l'action avait atteint 11 $ et là, on était dans les bas-fonds et tout d'un coup, whoop! Un saut de 47% suite à cette annonce. Ça veut dire que les actionnaires présentement pensent qu'il y aurait une acquisition potentielle d'un concurrent avec une prime de 50% sur l'action. Là. C'est ça que ça veut dire. Et on dit oui, on veut pas donner d'échéancier, oui, on veut rien dire, mais comprenons que depuis un an, l'action, malgré le saut, est au neutre. Là. Depuis un an, si vous avez acheté des actions de la Transat, malgré le saut de 50%, vous êtes au neutre. Oui, vous gagnez depuis le début de l'année, mais vous avez tellement vécu des pertes. Et évidemment, notre premier ministre est dans une drôle de situation parce que c'est un des fondateurs de la Transat qui avait vu à l'époque comme comptable, il y a un marché possible pour les vols non lisés parce qu'il est tout inclus comme on voit aujourd'hui. Comme on connaît, comme on prend pour acquis, mais c'était pas le cas tant que ça à l'époque. Et on a s'est mis à multiplier ça. François Legault a fait des millions avec ça, a vendu ses parts. Et il y a eu un plan de changement récemment pour dire on va essayer de redresser la compagnie, on va essayer de couper dans les coûts et on va essayer de devenir propriétaire de certains sites parce que là, tout le monde a copié Transat, tu sais, Air Canada, Vacances WestJet, Sunwings, il y en a plein, là, tu sais. Et t'as les voyageurs arabais sur Internet, t'as les intermédiaires, t'as trop de monde maintenant dans le marché qui fait en sorte qu'on peut plus faire les marges de notre époque. Même les agences de voyage, tu sais, voient bien la concurrence qu'il y a. Et quand tu regardes les états financiers trimestriels, ben tu vois une chose, pour le trimestre terminé le 31 janvier en 2019, oui, tu as 648 millions de revenus, mais tu as quand même des dizaines de millions de pertes. Là. On parle de à peu près 48-49 millions de pertes pour un trimestre, donc faut redresser l'avion, puis pas à peu près. Là.
Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, l'a confirmé que effectivement, les pourparlers existent en ce moment avec un groupe, mais que ce serait une société étrangère. Je rappelle qu'il y a 5000 employés qui travaillent pour Transat et le siège social, évidemment, se trouve à Montréal.
Bon, il y a la cause de protection d'une compagnie d'aviation canadienne qui empêche une certaine prise de contrôle, mais Paul, est-ce que, comme nation, on veut commencer à sauver des entreprises qui, toutes seules au Québec, fonctionnent pas tout à fait pour l'instant? Tu sais, c'est toujours le même débat. On a eu le débat avec Renault, le débat avec Couche-Tard. Si on accepte que Couche-Tard achète des actions d'entreprises à l'étranger ou des dépanneurs fassent des acquisitions, faut qu'on accepte que nos sièges sociaux aussi, lorsque ici, c'est pas un avantage comparatif qu'on a qu'il y ait une acquisition extérieure.
Mais tu as vu que dans le dernier budget, on avait débloqué 1 milliard $ justement pour garder ici nos sièges sociaux.
Oui, c'est un fonds. Ça peut être par Investissement Québec, tout ça, mais oui. Est-ce qu'on veut faire comme avec Québécois? Ben, Québécois, aujourd'hui, il faut pas oublier que Vidéotron est ici seulement à cause du gouvernement, effectivement, mais qu'on a subventionné implicitement Québécois pendant une décennie facile. Pourquoi? Parce qu'on a payé tellement trop cher que finalement, le rachat de Québécois est venu à un prix qui n'égale pas le rendement que les déposants auraient dû faire à la Caisse de dépôt et de placement. Donc, ça a été politique, mais ça n'a pas été payant. Ça a été surtout payant pour Québécois et M. Péladeau, qui a pu maintenant, grâce à ça, se sauver de l'imprimerie et de générer des flux monétaires positifs avec, évidemment, Vidéotron.
McDonald's a bien performé. Aujourd'hui, les chiffres ont été révélés, les résultats trimestriels, et on dit que c'est grâce au bacon et au beignet.
Bacon, beignet et off. Dans le fond, le McDonald's est allé nous chercher par le déjeuner. Et tu sais pourquoi tout le monde se lance dans le déjeuner? Tu m'as envoyé un article aujourd'hui sur Dunkin' Donuts.
Ah, c'est la guerre à finir.
Dunkin', McDo, Tim Hortons, pourquoi on offre le déjeuner? Plusieurs raisons. Dans la tête du consommateur, c'est un repas pas cher. Deux, c'est réconfortant. Trois, il y a des bonnes marges là-dessus. Mais je peux mettre un quatrième argument. T'as des bonnes marges parce que t'as pas beaucoup de stock, c'est simple, c'est à peu près la même chose, tu mélanges 2-3 ingrédients et t'offres des déjeuners et ça se fait extrêmement rapidement avec des réchauds et tout. Donc, au niveau du déjeuner, c'est payant. McDo dit « Hey, on va continuer le modèle de franchise, on va continuer là-dedans parce que nos états financiers le démontrent. On diminue nos revenus parce que on envoie les revenus chez les franchisés. On se rend compte que on passe pour un trimestre équivalent par rapport à l'année passée à moins de ventes. mais il y a de plus en plus de ventes qui se font des revenus de franchisés. Donc, tu transfères le revenu à des particuliers ou le risque à des particuliers et eux te donnent une redevance tout en prenant le risque d'affaires. Alors, comme corporation, tu reviens à l'essence même de McDonald's qui est vendre des franchises, passer à go, réclamer ton cash, fournir une image corporative et un modèle d'affaires, mais le faire opérer par les autres. C'est ça le but. Et quand on regarde à l'international, là, on a 38 000 McDonald's. Mais ce qui est intéressant, c'est que la majorité, dans la division américaine, par exemple, sur les 13 897, t'en as 13 224 qui sont par des franchisés. Donc, c'est ça le modèle. Prenez un risque, envoyez-nous de l'argent, on vous loue de l'immobilier et vous opérez ça. Et on vous donne le modèle McDonald's et envoyez-nous les profits à l'actionnaire.
Et toi-même, t'es un ancien employé de McDonald's.
Je suis passé de Paul. À l'époque, il y avait... Mes deux boss de McDo, c'était des Capelli. Et il y avait un qui m'avait dit un bon conseil quand j'avais 16 ans. Il m'avait dit, je fais plus d'argent avec mes actions de McDo qu'avec mes McDo. Alors, Paul, ce conseil-là n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, je suis passé d'employé à actionnaire.
Ah, ben c'est bon. D'ailleurs, tu as une recommandation pour les 20 à 30 ans.
Ouais, mais là, je sais pas mon vieux croulant qui dit aux autres comment vivre leur vie. Mais il y a trois constats sur la vingtaine. C'est que là, je fais des déclarations d'impôts d'amis, tout ça. Puis là, on discute. Les gens qui stagnent entre 20 et 30, c'est-à-dire qui décident entre 20 et 30 de « OK, je vais aller d'un emploi à l'autre, mais je vais réfléchir à ma vie. » Pendant ce temps-là, il y a trois actions que les autres posent. La première, la richesse, c'est une question relative. Donc, le coût de renonciation par rapport aux autres de notre âge est grand. Certains vont être, par exemple, dans une entreprise, ils vont être syndiqués, donc ils vont monter pendant ce temps-là dans l'échelon salarial, pendant que toi, tu te questionnes. D'autres vont devenir consultants, vont devenir une clientèle, une expertise. Il va y avoir des entrepreneurs qui vont partir des entreprises. Il va y avoir aussi des employés simplement qui vont monter dans le niveau des cadres pendant ce temps-là et qui vont développer une valeur. Donc, la progression des autres vont t'appauvrir relativement. Deuxième point, c'est la décennie de l'effort. C'est là que tu es capable de donner un coup les soirs, les fins de semaine, de pas penser à toi et de créer ce qu'on appelle une valeur à l'intérieur des entreprises. Tu te crées une valeur marchande en forçant plus que les autres. Et c'est difficile dans la trentaine, quand la famille arrive et les paiements et la vie, de mettre le même effort. Donc, cette décennie-là est payante. Et troisièmement, la décennie où on se définit une capacité d'investisseur. C'est-à-dire qu'entre 20 et 30, si tu réussis à investir pendant cette période-là, au lieu de te questionner, ben c'est 10 ans d'avance sur les autres au niveau du rendement. Et donc, qu'est-ce qui est payant avec l'argent, c'est de l'investir dans le temps. Je te donne un exemple. Le S&P 500, il y a 10 ans, il était après la crise financière, on était à moins de 800 points. Là, on est à près de 3000. As-tu pensé comment les gens qui ont investi dans leur 20 ans ont fait de l'argent par rapport aux autres? Et ça, c'est de l'argent qui ne réapparaîtra jamais parce que le rendement dans le temps est payant parce qu'il y a du temps qui passe. Si on laisse aller une décennie, on laisse aller une décennie de rendement et ainsi, on devient comme... pauvre relativement par rapport aux autres de notre âge qui sont un peu moins questionnés. Est-ce que c'est toujours bon? Non, parfois on se trouve dans la trentaine, Paul, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une réflexion 20-30 ans financière.
Merci beaucoup, mon oncle Pierre-Yves. À demain.